VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Politique au Mali, un haut gradé de l'armée malienne vient de faire acte de candidature pour la présidentielle de l'an prochain. Il s'agit de l'ancien ministre et général Moussa Cinco Koulibaly, dont les proches ont confirmé hier la démission de l'institution militaire. Jean-Roger Bian nous en dit plus.
C'est le deuxième personnage de la classe politique au Mali à manifester un intérêt pour la présidence, après l'annonce faite en septembre dernier par le maire de Sikasso, Khalifa Sanogo. Des proches de l'officier ont expliqué ce dimanche à la presse qu'il comptait affronter le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, au scrutin de 2018. La démission du général Koulibaly, qui satisfait à une exigence légale, lui ouvre la voie à la course présidentielle, alors que le Mali peine encore à organiser des élections de moindre niveau. Par exemple, les élections régionales prévues le 17 décembre ont été reportées à avril 2018 suite aux contestations des signataires de l'accord de paix de 2015. Auparavant, les autorités maliennes avaient dû reporter les élections municipales à plusieurs reprises pour diverses raisons, dont les violences qui sévissent dans le pays. Quant à la présidentielle de 2018, elle devrait se tenir à temps, si l'on en croit les déclarations faites par Ibeka à Jeune Afrique et reprises par l'AFP. Le chef de l'État malien n'a pas encore annoncé son intention de briguer un deuxième mandat.
Politique au Nigeria, l'ancien vice-président Atiku Abubakar a annoncé dimanche qu'il retournait dans son parti d'origine, aujourd'hui dans l'opposition. Il s'agit là, selon les observateurs, d'un premier pas avant de briguer la magistrature suprême en 2019. Atiku Abubakar a été le numéro 2 du président Olusegun Obasanjo au pouvoir de 1999 à 2007. République démocratique du Congo, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, accuse le régime du président congolais Joseph Kabila d'avoir recruté d'ex-miliciens du M23 pour réprimer les manifestations de décembre 2016 en RDC. La répression avait fait des dizaines de morts. Anne Albertson.
Des officiers supérieurs des forces de sécurité en République démocratique du Congo ont mobilisé plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant des pays voisins, affirme Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Les forces de sécurité leur ont donné des uniformes neufs et des armes et les ont intégrés dans la police, l'armée et la garde républicaine, le détachement de la sécurité présidentielle, selon le groupe de défense des droits de l'homme, témoignage à l'appui. Les 19 et 20 septembre 2016, puis les 19 et 20 décembre 2016, des Congolais ont manifesté pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir. Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016, selon la Constitution. Des dizaines de personnes, 62 d'après le rapport de Human Rights Watch, sont mortes dans la répression de ces manifestations. Les conclusions du rapport s'appuient sur plus de 120 entretiens, dont 9 avec des officiers des forces de sécurité congolaises, ainsi que 21 combattants et leaders politiques du M23, selon Human Rights Watch.
Le nombre de réfugiés de la RDC qui ont fui en Zambie pour échapper à la violence des milices dans les provinces congolaises du Haut-Katanga et du Tanganyika dépasse maintenant les 12 000. Selon l'UHCR, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 8 400 réfugiés congolais sont arrivés en Zambie au cours des 3 derniers mois, ce qui suggère une aggravation de la situation dans le sud-est de la RDC. Les forces gouvernementales congolaises auraient, dit-on, tué de nombreux civils en réaction à la rébellion dans les provinces en question contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Lors d'un entretien avec la Voix de l'Amérique, le porte-parole du HCR, Babar Baloch, a fait état de plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC, dont 200 000 au cours du dernier mois seulement. La majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants chassés par l'extrême brutalité des milices qui opèrent dans la région. Au Congo-Brazzaville voisin, les avocats ont cessé de travailler à Brazzaville, la capitale, et à Pointe-Noire, principal port du pays, pour exiger l'élargissement d'un collègue. Gabi Dorsil nous en dit plus.
Le bâtonnier du barreau de Brazzaville accuse les agents de la Direction générale de la sécurité du territoire d'avoir maltraité Maître Steve Botongo lors de son arrestation le lundi 27 novembre dernier. Autre incident reproché aux forces de sécurité, l'attaque jeudi à Brazzaville par des individus en civil, de journalistes venus assister à la conférence de presse de quatre avocats d'un opposant emprisonné, André Okombi Salissa. Les quatre avocats, de nationalité congolaise et française, ont dû annuler la rencontre. D'autre part, les avocats de Pointe-Noire affirment que leur assemblée générale samedi a été brutalement interrompue par l'irruption des forces de police lourdement armées et cagoulées. Ils ont donc décidé de faire la grève et d'en appeler au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pour que cesse ce qu'ils appellent les atteintes à la sécurité et à l'intégrité des membres du barreau.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, projet d'extension de Bujumbura à la capitale d'ici à 2045. C'est ce qui est prévu dans un plan directeur qui vise à faire de cette ville de plus de 800 000 habitants actuellement une agglomération de plus de 4 millions d'habitants à cette date. Reportage à Bujumbura de notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Le tambour était bel et bien présent lors du lancement officiel du projet Bujumbura Vision 2045, ce plan directeur pour une autre image de la capitale burundaise d'ici 20 ans. Le président Pierre Nkurunziza appelle les investisseurs à s'associer à la construction de grands hôtels ou lieux de conférences. Trois pôles composent cette nouvelle ville de Bujumbura, comme le précise le président burundais.
Au nord, une nouvelle ville sera construite avec comme capitale la localité de Guianza, zone industrielle et agricole et d'élevage. Au milieu, la ville dans laquelle nous vivons aujourd'hui sera réservée au commerce et à l'administration et le sud de la capitale consacré uniquement au tourisme. Ce projet que nous démarrons officiellement ce mardi est le lancement des travaux qui vont changer le visage de notre principale ville et de notre pays.
Cette nouvelle ville de Bujumbura sera un prélude à d'autres projets de développement. Quels sont donc les objectifs affichés par le gouvernement? Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Célestin Ndayizeye.
Il va y avoir augmentation d'industrie et du travail et d'autres projets de protection de l'environnement pour un développement durable. Ce projet a quatre objectifs principaux. D'abord, accueillir plus de 4 millions d'habitants et tous les services qui vont avec pour embellir une ville moderne. Deuxièmement, donner une autre image de Bujumbura qui va augmenter le nombre des touristes dans les régions des Grands Lacs africains. Troisièmement, faire de Bujumbura un carrefour. Et quatrièmement, protéger d'une façon durable l'environnement et bâtir une nouvelle ville en protégeant l'écosystème.
Le représentant de Singapore Cooperation Enterprise, qui a fait la nouvelle maquette sur proposition du programme des Nations Unies pour le développement au Burundi, indique que ce projet, dont on ne connaît pas le coût exact en termes de milliards de dollars, est réalisable.
Projet qui a débuté en 2014, qui a signé un accord trilatéral entre le gouvernement du Burundi, le gouvernement de Singapour, avec l'appui du PNUD. Donc c'est un accord sud-sud. Que Singapour et Burundi ont collaboré dans ce projet. Le représentant résident du PNUD a bien mentionné que Singapour est un pays qui a prospéré en 40 ans. Si ça a été fait en Asie, à Singapour, c'est impossible de le faire même à Bujumbura.
L'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delahousse, estime pour sa part que la concrétisation de ce projet immense nécessite une amélioration fondamentale du contexte politique et économique du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Proche-Orient, une reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis aurait des conséquences graves, a averti la Jordanie, signataire d'un traité de paix avec Israël. Pour Amman, une telle décision de l'administration Trump encouragera la violence et ne servira pas le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ces déclarations font suite aux propos de Jared Kushner, beau-fils et proche conseiller du président américain, qui a annoncé dimanche lors d'un forum à Washington que Donald Trump mettait la dernière main à sa décision sur un éventuel déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. La Jordanie, gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem et liée à l'État hébreu par un traité de paix conclu en 1994, a mis en garde contre une démarche aux conséquences graves qui risque, selon elle, de torpiller les efforts de paix israélo-palestinien. Cette position a été exprimée lors d'une conversation téléphonique dimanche soir entre le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et son homologue américain Rex Tillerson, a rapporté l'agence officielle jordanienne Petra. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.